الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فنشكر الأخ بعد الله تبارك وتعالى أبا بكر على ما أفادنا وذكرنا ورغبنا في الخير، فجزاه الله خيرا. وميرسي notre frère Abu Bakr, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ses précieux conseils et ses quelques paroles. Il y a à ma droite un homme qui se prénomme Philippe, c'est ça ?
C'est ça.
Donc qui est intéressé par l'islam et qui avait quelques questions, quelques interrogations. Il m'a donc contacté et je l'ai invité à venir à la mosquée. Est-ce qu'il te reste des interrogations, des questions ? Ou bien tu es prêt pour entrer dans l'islam ?
Non, je pense que je suis prêt pour entrer dans l'islam.
Ouais, Alhamdulillah. Je vais te donner le micro, t'expliquer comment est-ce que tu vas entrer donc dans l'islam. Pour ce faire, tu vas devoir, ou bien je vais continuer à parler, ensuite je te repasserai.
Okay.
Pour ce faire, tu vas devoir prononcer une parole qu'on appelle l'attestation de foi. Cette parole, je vais te l'expliquer et ensuite je vais te la dicter en arabe, inshallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah signifie j'atteste, je reconnais et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée, excepté une divinité unique, c'est Allah. De même que j'atteste et je reconnais que Muhammad est le prophète et messager d'Allah. D'accord ? Donc l'islam repose sur cette grande croyance qui est l'unicité d'Allah. Tu dois reconnaître qu'il y a une seule divinité qui mérite l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration. Car nous devons d'adorer uniquement le Créateur. Celui qui nous a créé, celui qui nous a comblé de ses bienfaits, celui qui nous a tout donné, le pourvoyeur, celui qui lorsque nous sommes malades nous guérit, celui qui peut nous sauver de l'enfer et nous faire entrer au paradis, c'est le seul que nous devons adorer. Et tout ce qui adore en dehors de lui ne mérite pas l'adoration, car ce sont des créatures. Dans l'islam, nous n'adorons ni les prophètes, ni les anges, ni les saints, ni les pierres, ni les arbres. Nous, on se soumet qu'au Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses. De même que tu dois reconnaître la prophétie du dernier prophète et messager qui se nomme Mohammed, qui est le messager envoyé à l'ensemble des mondes. Est-ce qu'auparavant tu pratiquais une religion ?
Oui.
Laquelle ?
Le christianisme.
Le christianisme. D'accord. Donc, tu dois également te désavouer des mauvaises croyances, comme le fait d'attribuer un enfant à Allah, et comme le fait de dire que Jésus est Allah lui-même, ou bien le troisième de trois, ou le fils d'Allah. Jésus, Isa alayhi salam, c'est le serviteur et le messager d'Allah. Et c'est un miracle, il est né d'une mère sans père. C'est le fils de cette femme pieuse, Marie. Mais ça n'est pas Dieu ni le Fils de Dieu. Allah n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagnon. Il est unique, il n'a pas d'associé. D'accord ? Donc je vais te dicter l'attestation de foi et tu vas répéter après. En répétant ces mots, tu entreras dans l'islam. D'accord ? Donc tu dis
Ashhadu
Allah.
Allah.
Ilaha.
Illallah.
Wa ashhadu
anna
Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi bi tatimmu salihat. Félicitations, Philippe. Offrez-lui ce qu'il y a derrière. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Après ta conversion à l'islam, après ce jour dans lequel Allah t'a comblé en te permettant de te soumettre à lui d'un culte sincère, Je t'annonce la bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que l'islam, donc celui qui entre dans l'islam, efface tout ce qui efface. Donc de par ta conversion à l'islam, Allah t'efface tous tes péchés passés depuis ta venue au monde jusqu'à cet instant. Donc c'est une bonne nouvelle. Et encore une fois, félicitations. Et les frères t'offrent ce que tu vois à ta droite. Et tu es la bienvenue lorsque tu le souhaites dans notre mosquée. Ou ailleurs, tu es la bienvenue. Merci Allah subhanahu wa ta'ala. Et shahadaka l'islam. L'imam sunna wa yafiqana wa iyak ala ta'ati. On demande à Allah de t'accorder le bien dans ce bas monde et au-delà, et qu'il rafferme ta poitrine sur l'islam et te permette de l'adorer d'un culte sincère. Et sache que le musulman doit effectuer 5 prières par jour. On parle déjà de ces questions. Donc tu dois commencer la prière et un frère va t'apprendre à faire la purification de la douche. Et en tant que musulman, tu t'es converti dans le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année. Donc Allah t'a honoré en te permettant de te convertir à l'islam et en plus de cela, d'entrer dans une adoration, le jeûne du mois de Ramadan. Donc il va te falloir commencer à jeûner maintenant, mais tu n'auras pas à rattraper parmi la miséricorde d'Allah, tu n'auras pas à rattraper toutes les années passées. Donc tu gardes toutes tes bonnes actions, on t'efface tous tes péchés. Bihamdillahi azza wa jal. Et tu vas commencer donc ton jeûne et on va t'apprendre à faire tes ablutions et faire la prière. Tu vas commencer par cette prière-là. D'accord ? Allah vérifie. Félicitations encore, Philippe, et sois la bienvenue. Si tu veux assister au cours, la mosquée est la tienne. D'accord ? La tienne, c'est un grand mot parce qu'il y a des gens un peu durs ici, mais t'as ta place. Hein ? C'est un jour rempli de surprises. Alhamdulillah, alladhi bi taqdimi as-salihat. Il y a un frère, jazakallahu khayran, qui a acheté ces quelques livres. Donc en français, ils le traduisent par lettre à tous les musulmans. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous allez décider qui est-ce qui va les prendre, qui est-ce qui va en acheter d'autres, et ainsi de suite. Comment on fait Yassine ? Allahu alam. Oui. Allez, reste sur la table. À la kulli hal, celui qui les a offerts trouve une solution. Ça me dérange. Elle est sur la table comme ça, ça me dérange. Trouve une solution. Tout le monde se sert. Il n'y en a pas pour tout le monde. Distribuez-les. Ouais, on va faire passer aussi aux femmes. On sera allé à la question. C'est le même livre que nous avions étudié l'année passée. Pour ceux qui étaient avec nous. Alhamdulillah wa ba'd. بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إيانا نبتدئ قراءة رسالة نافعة جدا للعلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وعنوانها رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. Donc par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son grand bienfait sur nous, nous allons commencer la lecture d'un livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui s'intitule La lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères. La lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, un grand savant d'Islam connu, il est né en 691 et décédé en 751. Et je vous invite à lire sa biographie. Les savants ont grandement vanté les mérites de cette lettre et nous ont encouragé à la lire avec méditation et tirer profit. Car dans cet ouvrage, qui est une lettre à la base, comme on le lira, il y a de nombreux conseils, de nombreux remèdes. Particulièrement à l'époque dans laquelle nous vivons, nous avons besoin de lire les lettres de nos savants remplies de conseils et de bonnes exhortations. Hadhihi ar-risala كتبها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الأخ علاء الدين. إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تبقى أثرها وأن ننتفع بها جميعا وأن تبقى الحسنات مستمرة على ممر الزمان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. Donc, cette lettre à la base est destinée à un homme qui se nomme Ala-ad-Din. Ala-ad-Din. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que nous en tirions profit, même après la mort d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, génération après génération. Et tu t'étonnes de voir une lettre qui est adressée à un seul homme que nous ne connaissons pas. Ala-ad-Din, ma yudra minhu. Nous ne savons pas qu'il est, nous n'avons pas d'informations sur lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette lettre reste génération après génération et qu'on en tire profit et que les savants la lisent, l'enseignent, la transmettent. Pareil pour les étudiants et pareil pour une partie de la communauté. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a voulu donc conseiller ce frère fillah ala ad-din. Fawasalahu bi afdal ma yumkin. An-nusr wal-irshad wat-tadhkir wal-wasiya bil khayr. Il a voulu lui prodiguer le bon conseil, l'orienter vers le bien. Il a voulu lui faire du bien. Et le meilleur bien que tu peux donner à ton frère, c'est de bonnes recommandations avec lesquelles il va pouvoir se rapprocher davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala et s'éloigner du feu de l'enfer. C'est la meilleure chose que tu peux donner à quelqu'un. L'orienter vers le bien. L'orienter vers le Jannah, vers Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'il s'élève en degré fil Jannah et qu'il s'éloigne et se prémunisse du feu de l'enfer. وهذا من بركة العلم النافع المبني على كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم المبني على الإخلاص نحسبه كذلك والله حسيبه. Et ces effets, fait de voir cette lettre entre nos mains alors qu'elle a été envoyée à la base à Ala-ad-Din, c'est un effet de la science authentique tiré du Coran, tiré de la Sunna, qui repose sur la sincérité du service. L'auteur dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc il a commencé par la basmala, car c'est la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il envoyait ses écrits au roi pour les inviter à l'islam.
يقول رحمه الله تعالى الله مسؤول المرجو الإجابة أن يحسن للأخ على الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان.
Ceux qui ont le livre en français, ça commence à la page 21.
C'est à Allah que je m'adresse, espérant qu'il exauce mon invocation de t'accorder ses bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà, de te rendre utile et de te bénir où que tu sois.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بدعوات عظيمة مباركة جميلة للأخ علاء الدين. ونستفيد من هذا أن السابقين أهل رفق ونصح لإخوانهم يحبون لهم الخير كما يحبون الخير لأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
Il a commencé cette lettre par de magnifiques invocations pour ce frère en Allah. Et de cela on tire que nos anciens, nos savants, sont des gens dotés d'une grande douceur et d'une grande miséricorde envers leurs frères. Ils aiment pour leurs frères le bien tout comme ils l'aiment pour eux-mêmes. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le bien que tu aimes pour ta personne, tu dois l'aimer pour les autres. C'est ainsi qu'ils étaient, rahimahumullah. Il a donc commencé cette lettre par de belles invocations afin de lui faire montrer qu'il l'aime pour Allah et qu'il aime pour lui donc le bien, et qu'à travers cette lettre son but c'est qu'il se rapproche d'Allah, c'est qu'il obtienne tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et en commençant cette lettre ainsi, sans aucun doute tu ouvres le cœur de ton frère afin qu'il accepte le conseil qui va suivre. فسلك سبيل الرفق والرحمة وهكذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتاب العزيز فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن كان ذا رفق رحمه الله. Allah tabaraka wa ta'ala a décrit ainsi son prophète dans le Coran en lui disant: c'est par quelques miséricordes de notre part que tu as été si doux envers eux. Donc si tu vois en toi que tu as du rif, de la douceur, de la rahma, de la pitié envers les gens, ben c'est une miséricorde d'Allah sur ta personne et sur les autres. Car Allah dit dans le Coran: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu as été si doux envers. Donc si Allah veut du bien pour le serviteur, il lui ouvre les portes de la douceur. Il est doux envers sa personne, il est doux envers ses parents, il est doux envers ses épouses, il est doux envers ses enfants, il est doux envers ses frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-rifqu ma kana fi shay'in lazal, wa ma nuzi'a min shay'in lazal, illa shay'. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: la douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Il nous dit également: certes Allah aime la douceur dans toute chose. Donc celui qui a cette qualité, c'est qu'Allah a voulu son bien, qu'il lui a accordé de sa miséricorde. On tire une grande faïda ici de laquelle nous sommes beaucoup distraits. Min abwab al-khayr wa min abwab al-da'wa al-rasa'il. On tire de cela que parmi les façons de prêcher, d'appeler les gens à Allah, le fait d'écrire une lettre à la personne. Particulièrement au jour d'aujourd'hui, c'est facilité avec les SMS, avec les mails et ainsi de suite. Ou tu écris de ta main, c'est encore mieux. La personne sera touchée en voyant que tu as pris du temps pour lui, pour elle. Et ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre comment est-ce qu'il faut se comporter. Il dit un yuhsina ila al-akh. Il n'a pas dit ilay ou ilayk. Ila al-akh. Dhakkarahu bil-ukhuwa al-diniya al-islamiyya. Aydan sammah qala ala al-din. Afwan. Donc, deux choses qui ont attiré l'attention des savants dans la manière d'écrire, c'est que Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit qu'Allah soit bienfaisant envers le frère. Il lui a rappelé la fraternité, c'est son frère en Allah. Innama al-mu'minuna ikhwa. Aussi, il l'a appelé par son nom. Quand tu reçois un courrier et que ça t'est adressé personnellement, ça va te toucher plus que si c'est un courrier qui est envoyé à la masse des gens. Donc ainsi, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a adouci le cœur de celui à qui il veut prodiguer le conseil sincère. Et parmi donc ces invocations, il a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il accorde le bien à Ala ad-Din dans ce bas-monde et dans le bas. Et celui à qui Allah accorde ses faveurs et son bien, sans aucun doute, il obtiendra la réussite dans ce bas-monde et l'au-delà. Wa ayyan fa'abi. Premièrement, il invoque Allah afin qu'il le réforme dans sa propre personne. Deuxièmement, ayyan fa'abi. Il invoque Allah Azza wa Jal afin que cet homme-là réforme autrui. C'est comme s'il avait demandé à Allah qu'il fasse de Ala ad-Din une personne pieuse qui va apporter le bien aux autres. Pas une personne pieuse qui va être bien et profitable qu'à sa propre personne, non. Mais ce bien-là va se répercuter sur autrui. Siyasir salihan finafsi muslihan lirayri. Donc il va être pieux et bien en lui-même, dans sa relation entre lui et Allah, mais également avec les gens. Il va les orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il continue en disant وَيَجْعَلَهُ مُبَارَكًا أَيْنَ مَكَانَ. Il demande à Allah de faire de lui une personne bénie où qu'elle soit. البركة ثبوت الخير لله وكثرته في شيء. البركة c'est un concentré de bienfaits qu'Allah met dans une chose et son abondance. Et parmi la perfection du conseil d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est qu'il invoque Allah pour lui, puis il lui explique cette invocation. Il fait le dua pour lui, puis il lui explique le sens de cette dua en disant فَإِنَّ بَرَكَةَ الرَّجُلْ تَعْلِيمُهُ لِلْخَيْرِ حَيْثُ حَلْ وَنُصْحُهُ لِكُلِّ مَنْ اجْتَمَعَ بِهِ. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مراقبا في طاعته فهذا من بركة الرجل. لوتر رحمه الله تعالى إكسليك أعلى الدين لسانس ou bien comment définir l'homme qui est béni. Qui est l'homme qui est béni? Ou la femme qui est bénie? Il nous dit, en effet, la bénédiction d'un homme réside dans l'enseignement du bien qu'il dispense aux gens, où qu'il soit, aussi dans le conseil sincère qu'il porte à ceux qu'il rencontre. Donc, qui est la personne mubarak, la personne qui peut être décrite comme étant béni? C'est celui qui connaît le bien, l'applique sur lui-même, puis invite les autres à ce bien-là. Et il fait cela où qu'il soit chez lui, qu'il soit au travail, en chemin, à la mosquée, en voyage, où qu'il soit, il se définit ainsi. Personne ne le rencontre sans tirer profit de ses bonnes paroles, de son bon comportement, de ses bons enseignements. Personne ne reste avec lui dans une assise, si ce n'est en repartant avec un butin. Sa foi augmente. Il a envie de se rapprocher d'Allah. Il a envie de se repentir. هذه من بركة ar-rajul. Voici la personne donc qui est bénie. Et lorsque la personne lit ce courrier et qu'elle entend l'explication de la personne qui est Mubarak, quel effet cela développera dans son cœur? Ulul himma, une grande motivation afin d'entrer dans ses caractéristiques. Tu entends la personne qui fait de dua pour toi. Elle demande à Allah de faire de toi quelqu'un de pieux, quelqu'un qui enseigne le bien, qui propage le bien partout. Dans ça, ça va développer en toi l'envie d'être cette personne. Une personne donc qui apprend le bien, qui le met en pratique, qui le transmet, qui est utile dans les assises, qui est utile pour ses frères et sœurs. Donc Ibn al-Qayyim motive Allah al-Din avec ses invocations. Donc tu ne croises personne sans lui transmettre du bien qu'Allah Azza wa Jalla t'a facilité. Puis, il nous cite le témoin de cela dans le Coran. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتِ. Allah Azza wa Jalla nous cite la parole de Isa alayhi salam dans le Coran. Il m'a rendu béni où que je sois. C'est-à-dire qu'il a fait de moi une personne qui enseigne le bien, prêche à la religion d'Allah, la rappelle aux gens, les exhorte à lui obéir. Tout cela fait partie de la bénédiction de l'homme. Donc, cet homme béni connaît le bien, l'enseigne aux gens, appelle les gens Allah tabaraka wa ta'ala à le connaître, à le craindre, à l'aimer, à se soumettre à lui, à être profitable à la communauté. Tout ceci fait partie de la bénédiction de l'homme. Ce sont les assises dans lesquelles tu entends qala Allah, qala Rasul, al-tawhid, al-sunnah. Les assises dans lesquelles on t'appelle à Allah, on t'appelle à un paradis vaste comme les cieux et la terre. Les assises dans lesquelles on t'appelle à la sunnah, à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à le suivre. Mais comme ça viendra par la suite aussi, les assises dans lesquelles on te met en garde contre le shirk, contre le mal, contre les bid'ah, les innovations et les gens du mal, afin que tu obtiennes le bien et que tu puisses le préserver. Et cette bénédiction est profitable et utile dans ce bas monde et suit les gens même dans l'au-delà. C'est lui qui prend ses bonnes fréquentations, qui reste avec les gens du bien. Ne pensez pas que cette bénédiction s'arrête avec sa mort, mais ça le suit même dans l'au-delà. Par exemple, comme l'a cité dans le Sharh sur Sulaiman al-Rahil, donc le Sharh à la base est pris de Cheikh Abdul Razak al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala, et j'ai trouvé un second Sharh de Cheikh Sulaiman al-Rahil, Hafidhahullah Ta'ala. Il cite comme exemple le Hadith al-Shafa'a, qui est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, que lorsque les gens vont traverser le Sirat, certains vont réussir et certains vont tomber. Alors les gens qui ont réussi la traversée du Sirat, ja'alallahu wa iyyakum min ha'ula al-fa'izin, ils vont invoquer Allah. Oh Allah, nos frères, ils priaient avec nous, ils jeûnaient avec nous. Écoutez la baraka qu'il y a à rester avec les gens pieux, à rester avec les bonnes fréquentations. Oh Allah, nos frères, ils jeûnaient avec nous, ils priaient avec nous, ils étaient avec nous. Ils étaient avec nous où? Dans ces assises. Mais ils sont tombés en eux. Alors ils vont invoquer Allah, ils vont demander à Allah jusqu'à ce qu'Allah leur dise: allez trouver ces gens que vous connaissez et faites-les sortir. Toute personne qui aura du iman, puis un dinar, puis la moitié d'un dinar, puis. Subhanallah. Comment est-ce qu'ils vont les connaître? Parce qu'ils étaient avec eux fil dunya, car ils ont alama, al-iman, un minimum de iman, d'islam. Donc cette baraka, subhanallah, soit toi tu vas être cette personne, mubaraka, yani celui dont le bien se répercute sur autrui, soit tu seras celui sur lequel le bien s'est répercuté, car tu fréquentais ces gens de bien. Dans tous les cas, ma tahlou min baraka. Dans tous les cas, tu auras un bout de baraka, un minimum de baraka. Car le musulman ne peut être vide de baraka, de bénédiction. De ce verset, on tire que « al-baraka min Allah fa minhu tutlab ». De ce verset, on tire que la bénédiction provient d'Allah. Et c'est de lui, et c'est à lui, pardon, que nous devons la demander. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَمَنْ خَلَ مِنْ هَذَا فَقَدْ خَلَ مِنَ الْبَرَكَةِ وَمُحِقَتْ بَرَكَةُ لِقَائِهِ وَلِاجْتِمَاعِ بِهِ بَلْ تُمْحَقُ بَرَكَةُ مَنْ لَقِيَهُ وَاجْتَمَعَ بِهِ وَإِنَّهُ يُضَيِّعُ الْوَقْتَ فِي الْمَا جَرَيَا وَيُسْهِدُ الْقَلْبِ وَمَنْ خَلَ مِنْ هَذَا أي من هذه الصفات الجميلة العلم النافع والدعوة إليه فقد خلى من البركة أي البركة المتعدية للخير الظاهرة محقت بركة لقائه والاجتماع به بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. Ensuite l'auteur nous dit quiconque est dépourvu de ses qualités, c'est-à-dire la science utile, sa mise en pratique et le fait d'appeler les gens au bien, alors il sera dépourvu de cette bénédiction. C'est-à-dire celle qui est apparente et celle dont le bien se répercute sur les gens. Sinon un musulman, forcément, il a un minimum de baraka. Mais ici on parle de la baraka qui est apparente, de la baraka qui se répercute sur les autres. Donc celui qui n'a pas ces qualités, il n'a pas de bien, il ne met pas en pratique le bien, il n'appelle pas les gens au bien, il n'a pas de baraka. C'est pas une personne de bien, c'est pas une personne qu'il faut fréquenter. L'auteur nous dit, la bénédiction qui est censée se dégager de sa rencontre et de sa fréquentation disparaît dès lors qu'elle a lieu. Plus encore, la bénédiction émanant de ceux qu'il rencontre et se joint à lui se dissipe dès que ces derniers se regroupent. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ici, celui qui n'a pas ces qualités n'aura pas de baraka, de bénédiction. Et toute personne qui le rencontrera n'arrivera rien avec lui. Il ne tirera pas profit de lui. Pire encore, celui qui est bien, à la base, s'il se met à fréquenter ce genre de personnes, va perdre sa propre baraka. Vous avez compris? Donc même les gens de bien, qui vont fréquenter ce genre de personnes dépourvues de baraka, vont perdre leur propre bien. Donc cette personne est tellement mauvaise qu'elle a apporté à sa propre personne le mal, mais en plus de cela, à ses fréquentations et ses assises. فَأَضَرَّ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَبِجَلِسِهِ وَاللَّهِ مُسْتَعَانِ. Puis il nous dit, rahimahullah, parce qu'il ne fait que perdre son temps dans les palabres qui corrompent le cœur. Pourquoi cette personne fait disparaître la bénédiction des gens et de ses fréquentations? Car il ne fait que perdre son temps. Fil ma jaraya ay alladhi jara wa hasal hasala kadha wa fa'ala fulan kadha wa jara kadha wa hasala kadha. Yani ce qu'on pourrait traduire en français par les on dit. Cette personne ne fait que perdre son temps dans les on dit. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela, il s'est passé ça, t'as entendu parler de ça, perd son temps. وَيُفْسِدُ الْقَلْبِ. Et il détruit le cœur des gens. Donc cette personne qui n'a pas de baraka te fait perdre ton temps et anéantit ton cœur. Te fait perdre ton temps et avec cela anéantit ton cœur. L'auteur, rahimahullah ta'ala, ne s'est pas contenté de te donner la clé du bien et de t'appeler au bien. Il te met aussi en garde contre le mal, car c'est la voie du Qur'an, c'est la voie de la Sunna, c'est la voie des pieux prédécesseurs. Et de par l'ignorance de l'époque, on pointe du doigt et on dénigre ceux qui ne se contentent pas d'appeler les gens au bien, mais aussi les en garde contre le mal, car ces gens sont ignorants du manhaj de salaf. Ignorant du chemin du Qur'an, ignorant du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en commençant à lire le Qur'an, tu trouves qu'Allah azza wa jalla a divisé les gens. Il nous a montré les qualités de ceux qui ont pris la science et l'ont mise en pratique. C'est le mun'amu alayhim. Le mun'amu alayhim. Ensuite, le mardoub alayhim, ceux qui ont eu la science mais n'ont pas mise en pratique. Et ensuite, le balloum, ceux qui se sont égarés. Puis le roi, il commence à tout le bafara. En nous citant les qualités des croyants, puis les défauts des hypocrites, puis ceux des koufars. Donc ça, c'est le chemin du Coran. Et on finit le Coran en nous mettant en garde contre le pire ennemi, al-shaytan. Subhanallah. Après cela, les gens se plaignent lorsqu'il y a une mise en garde contre une personne qui ramène le mal dans la communauté. Mais ceci est dû en majeure partie à l'ignorance et à la tromperie de certains qui cachent la vérité à la masse des musulmans. Mais Allah Azza wa Jalla parfait à l'humain. Quelques réflexions qu'en aient ces gens-là. Ces gens-là n'ont dans leurs assises que des blagues, des plaisanteries, des sujets et en rapport avec la dunya. Donc ils perdent leur temps. Et la plupart des gens, à notre époque, malheureusement, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, dans leurs assises, c'est ça. Dans le meilleur des cas, ils parlent que de la dunya. Que dire alors de ceux qui, en plus de cela, tombent dans les péchés? En plus de la perte de temps, tombent dans les péchés. Le mensonge, le colportage, la médisance, et j'en passe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité en parabole ces deux types d'assises. L'assise avec, yani les bonnes fréquentations, les bonnes assises, sont semblables aux vendeurs de parfums. Soit il t'en offre, donc tu peux te parfumer, tu seras connu avec cette bonne odeur. Soit tu sens de sa bonne odeur, soit tu en achètes. Donc quoi qu'il en soit, tu tires un profit, tu tires un bénéfice. Soit il t'en offre, tu peux te parfumer, soit tu en achètes, tu peux te parfumer, tu vas sentir bon, tu seras connu par cette bonne odeur. Soit au minimum, toi tu auras senti de sa bonne odeur. Et l'exemple de la mauvaise assise, de mauvaise fréquentation, l'exemple du forgeux. Soit tu sens une mauvaise odeur de lui. Donc tu ne ressors pas indemne de cette assise. Quoi qu'il en soit, tu ne ressors pas indemne. Tu ressors avec des écorchures. Au minimum. Donc soit tu sens une mauvaise odeur de lui, soit il brûle tes vêtements. Donc tu tombes avec lui et tu lui ressembles au final. Quoi qu'il en soit, tu ne ressors pas indemne de cette assise. Donc à toi maintenant de regarder l'assise qui t'apportera du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les assises dans lesquelles il y a la perte de temps et les péchés ne sont que regrets. Ne sont que regrets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ma min qawmin yajlisuna majlisan thumma la yadhkuruna Allah illa qamu ala mithli jifati ithmar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wa kana hasratan ala yawm al-qiyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un hadith que l'imam al-Bani a rendu authentique qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent sans avoir invoqué Allah, sans qu'il ne soit semblable à un groupe de personnes qui se séparent du cadavre d'un âne. Est-ce qu'il y a une baraka? Est-ce qu'on a tiré profit de quelque chose? La dépouille d'un âne, le cadavre d'un âne, qu'est-ce que tu peux en tirer? Rien. De la même façon, ceux qui s'unissent et se séparent sans avoir parlé d'Allah, sans s'être rappelé taqwa Allah, ben ils sont à l'image d'un groupe qui était maza devant le cadavre d'un âne et repart ensuite. Il n'y a rien à dire que des regrets. Puis le prophète sallam nous dit: et yawm al-qiyam, ça sera une source de regrets. Pourquoi? Ils vont voir les hasanats que les gens vont prendre car ils ont bien utilisé leur temps, mais lui a perdu son temps, donc il va regretter. Et ces assises sont encore plus répandues chez les femmes. N'as-tu pas vu telle voisine? N'as-tu pas vu Khadija? N'as-tu pas vu Fatima? Sa cuisine kaza, son salon kaza, ses vêtements kaza, son mari kaza, ses enfants kaza. En plus elle a fait ça, en plus elle a dit ça, en plus c'est pas vrai. Il y a des heures et des heures et des heures dans ça. Ben, c'est une source de regret, c'est une source de péché. Car la parole appelle l'autre parole, et la deuxième appelle une troisième jusqu'à ce que les gens tombent dans le péché. Et forcément, il y a par la suite les regrets. Et alhamdulillah, tant qu'il y a de la vie, et que le soleil ne s'est pas levé de l'autre côté, il y a la porte du repentir. Donc il nous faut prendre, faire attention à ces défauts. Et ce livre, on le lit, nous devons avoir une bonne intention, c'est de se corriger, de s'améliorer, de se motiver, d'avancer dans notre deen, et par la suite de corriger autrui. Et ça, le but pour lequel on se réunit, afin d'avoir la récompense et l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa qafana Allah wa iyyaka. L'auteur nous dit pourquoi est-ce qu'il ne faut pas rester avec ces gens qui ont perdu leur baraka. Car ils font perdre le temps et corrompent le cœur. Lian al-qalba hayatu bi zikrillah. Pourquoi est-ce que ça affecte le cœur, ça tue le cœur, ça corrompt le cœur? Car le cœur vit avec le rappel d'Allah, vit avec dinullah. Et si tu lui enlèves le rappel d'Allah, si tu ne remplis pas ce cœur par l'amour d'Allah et le rappel d'Allah, il se remplira d'autre chose. Et lorsque le cœur s'éloigne d'Allah et s'éloigne du rappel d'Allah, il souffre puis meurt. À l'image du poisson que tu as sorti de l'eau. Si tu le laisses longtemps dehors de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il va mourir. Et lorsque tu le sors de l'eau, n'as-tu pas vu l'état dans lequel il se retrouve? Ben, c'est l'exemple du cœur qui s'éloigne du rappel d'Allah. C'est l'exemple du cœur qui reste avec les mauvaises fréquentations. Il a l'image du poisson qui a été sorti de l'eau. Wallahu musta'an. Et l'homme ressent cela de lui-même. Lorsqu'il reste avec de mauvaises personnes, il se sent mal s'il y a du bien en lui. Par contre, celui qui est malade ou celui qui a le cœur mort, il ne ressent plus de douleur. N'as-tu pas vu que le mort, lorsque tu lui mets des coups, ça ne lui fait plus rien? Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit وَكُلُّ آفَةٍ تَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ فَسَبَبُهَا ضَيَاعُ الْوَقْتِ وَفَسَادُ الْقَلْبِ. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ici une grande règle qu'il nous faut retenir. Il nous dit: or, la cause de chaque vice qui affecte l'homme n'est autre que la corruption du cœur. L'auteur nous dit: tout défaut qui vient sur le serviteur a pour cause la perte de temps et la corruption du cœur. Tout défaut, tout vice qui affecte l'homme a pour cause la perte de temps. On dirait qu'il manque cela, la perte de temps. تَدْخُلُ الْعَبْدُ فَسَبُبُهَا ضَيَاعُ الْوَقْتِ. Donc, or, la cause de chaque vice qui affecte l'homme n'est autre que la perte de temps et la corruption du cœur. Rajoutez la perte de temps. Sauf si j'ai raté un passage, il manque cela. Donc, c'est une grande règle qu'il nous faut retenir. Tout mal qui touche une personne, c'est à cause de ces deux choses-là, ou de l'une des deux choses. Soit il a perdu son temps, soit son cœur a été affecté dans le mal. Et ça n'est autre que l'effet des mauvaises fréquentations et des mauvaises assises. Et quand on dit les mauvaises fréquentations et les mauvaises assises, il ne faut pas penser que physiquement, mais même celui qui communique avec le téléphone, ou avec les SMS, ou les différents moyens de communication, ou bien Internet, ou bien la télé, tout cela est compris dans ces paroles. Ça fait perdre le temps, et ça amène la corruption du cœur et la destruction du cœur. وَتَعُوذُ بِضَيَاعِ حِفْظِهِ مِنَ اللَّهِ وَنُقْصَانِ دَرَجَتِي وَمَنْزِلَتِي عِنْدَهِ لِهَذَا ولهذا أوصى أو وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها وكان ممن قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا أي فرطوا فيما أنفعهم ويعود بصلاحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. L'auteur nous dit: la corruption de ce cœur est due à la négligence de ses droits au regard de la religion d'Allah. De même qu'il se corrompt lorsque l'importance de son statut et de son rang se déprécie à nos yeux. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: donc celui qui a ses défauts perd son temps, il a été touché par la corruption du cœur. Ceci l'emmènera à perdre de la protection d'Allah et de son rang auprès d'Allah. Si toi tu ne vas pas vers Allah, tu te fais devancer par autre. Pendant que toi tu perds ton temps, sache qu'il y a des gens qui ne perdent pas de l'heure. Et nous sommes dans une concurrence, en concurrence dans ce bâme. Nous devons nous concurrencer pour avoir la meilleure place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la personne qui perd son temps ne s'est pas approchée d'Allah. Et sache que lorsque tu ne te rapproches pas d'Allah, tu recules. Il n'y a pas de surplace, c'est dunya. Soit tu te rapproches d'Allah, soit tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu musta'an. Et c'est pour cela que certains de nos savants nous conseillaient et disaient: méfiez-vous de ceux dont la fréquentation n'est que perte de temps et corrompt le cœur. Les savants conseillaient jadis et disaient: méfiez-vous de ceux dont la fréquentation n'est que perte de temps et corrompt le cœur. Donc c'est Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala qui rapporte ça. Car quand la personne perd son temps et est touchée par la corruption du cœur, ou bien quand la perte de temps s'ajoute à la corruption du cœur, l'homme néglige alors sa conduite dans tous les aspects de sa vie. Toutes ses affaires deviennent désordonnées. Il n'arrive plus à ordonner ses affaires et à faire ce qu'il a à faire. Celui-ci sera donc du nombre des gens au sujet desquels Allah a dit dans ce verset: et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Dont toutes les affaires sont désordonnées. À la fin du verset, dont toutes les affaires sont désordonnées. Comme l'ont expliqué les saints. Donc ici, on a tout le verset, mais bien quand même, avait cité que Al-Shahid, la partie qui témoigne de ce qu'il a avancé. Donc le début du verset, donc ici, Allah Azza wa Jalla interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester avec les gens qui n'ont pas de baraka. Et au début du verset, il lui ordonne de rester avec al-mubaraki. En lui disant: wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en recherchant le faux brillant de la vie sur terre. Donc Allah Azza wa Jalla ici dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: reste avec les gens qui ont de la baraka, reste avec les bonnes fréquentations, ahlul ikhlas, ahlul islam, ahlul tawhid. Puis il les met en garde contre les mauvaises fréquentations, ceux qui ont perdu leur baraka. Et tu ne dois pas, pour choisir tes fréquentations et tes assises, regardez le nombre. Tu ne dois pas dire: dans telle assise il y a beaucoup de monde, alors c'est une bonne assise. Non. Dans telle assise il y a peu de monde, alors c'est une mauvaise assise. Non. Ce qui compte, c'est ce qui s'y dit. L'assise dans laquelle il y a ton bien, l'assise dans laquelle on t'apprend qui est Allah, qui est le Prophète sallam, ce qu'est l'islam, comment rentrer au paradis, comment éviter l'enfer. L'assise dans laquelle ta foi augmente, l'assise dans laquelle, lorsque tu en ressors, tu veux te repentir et revenir vers Allah. Voici la bonne assise. Voici la bonne assise. Donc regarde, est-ce que ça te rapproche d'Allah? Est-ce que ça te rapproche de la sunna et de ses adeptes ou pas? Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit: ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله. Et celui qui médite le comportement des gens verra, à l'exception de rares cas, qu'ils ont tous le cœur distrait du rappel d'Allah, qu'ils se laissent tous conduire par leur passion et qu'ils négligent tous ce qui relève de leur intérêt. Ou bien qu'ils négligent tout ce qui relève de leur intérêt. Donc la plupart des gens se sont égarés de la voie droite, se sont égarés du bon chemin sur lequel, du chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la majorité des gens ne sont pas dans le bien. Il y a dans cela une grande réputation à ceux qui disent: oui mais la plupart des gens font ceci et cela. Oui mais là-bas ils ont dit ça, oui mais ils font ça. Lorsque tu leur dis Allah a dit, ils te répondent: oui mais nos ancêtres faisaient cela. Lorsque tu leur dis Allah a dit, ils te disent: oui mais là-bas ils font ça, là-bas ils font ça. La ya'akh al-ibra bima qala Allah, bima qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bima qala as-sahaba. Donc ce qui compte, ça n'est pas le chiffre, le nombre, la majorité n'est pas gage de vérité. Ce qui compte, c'est la conformité avec les textes, le Coran, la Sunna, le chemin sur lequel étaient les plus prédécesseurs, radiallahu anhum ajma'in. N'as-tu pas lu dans le Coran: wa ma aktharun nas walau harassa bimu'minin wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa qailun min ibadi ash-shakur wa qailun ma hum. Combien de versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla nous montre que la majorité est égale et qu'une minorité est reconnaissante, une minorité sur la tawhid, une minorité sur la droiture, une minorité dans le bien. Donc il ne faut pas te fier à la majorité. La plupart des gens, ici nous dit Ibn Qayyim, la plupart des gens dans le monde, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jalla donc a voulu le bien, sont distraits, ont le cœur distrait et ont suivi leur passion. Quelle fut la finalité? Toutes leurs affaires sont devenues désordonnées. Et ils ont délaissé ce qui leur apportait le bien dans ce bas-monde et l'au-delà. Ibn al-Qayyim nous explique ce que veut dire wa kana amruhu furuta, ay farratu fi ma anfa'uhum wa ya'udu bi salahihim. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accompli ce qui leur apportait le bien dans le bas-monde, dans ce bas-monde et l'au-delà, et ce qui les réforme. Donc celui qui ne fait pas ce qui est bon pour lui dans ce bas monde et l'au-delà, entre eux dans ce verset, Wallahu musta'an. Ani mimman farrata fi amri. Wallaqtu ma'adhi wa kullu yawmi yamurru bina yudnina ila al-ajal wa ila al-maut wa ila liqa'illah wa al-hisab wa al-janna aw al-nar. Et chaque jour qui passe, alors que les gens sont distraits du rappel d'Allah, leurs cœurs sont distraits d'Allah et de son rappel, alors que les gens perdent leur temps, ben chaque jour qui passe, c'est un jour qui te pousse vers la mort, qui te conduit vers l'ange de la mort, qui te conduit vers Allah, qui te conduit vers la tombe, qui te conduit vers Yom al-Qiyamah, qui te conduit vers le jugement, qui te conduit au final soit au paradis, soit en enfer. Donc comment est-ce qu'on pourrait se permettre de perdre du temps? Comment est-ce qu'on pourrait se permettre de négliger nos cœurs et de négliger le temps libre que nous avons? Ceux qui font ça sont ceux qui ont perdu la baraka. Amma, les gens qui sont au baraka, ces gens-là savent que le temps, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza. Il a été cité dans la biographie d'un des plus prédécesseurs que si, il dit, si on m'informe, يعني لو قيل لأن ملك الموت عند الباب ما وجدت عملا أعمله يعني أزيده لماذا؟ لأنه استعد للقاء الله استعد للقائه عاش كأنه سيموت، يعني لما أصبح عاش كأنه سيموت في الليل، وإذا وصل إلى الليل عاش كأنه سيموت قبل الصباح، وهكذا. فعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابن عمر رضي الله عنهما. Un des plus prédécesseurs nous dit, si, ou bien les salafs ont dit de lui, si on lui avait dit que l'ange de la mort se trouve à sa porte, il n'aurait pas trouvé d'action à ajouter. Que veut dire cette parole? Chaque jour, il agissait comme s'il allait mourir dans la minute, ou plutôt dans la seconde. Au point où si tu lui disais, tu vas mourir tout de suite, l'ange de la mort est venu te chercher, ben ça n'aurait pas changé son mode de vie. Parce qu'à la base même, il se comporte ainsi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Omar, « Kun fi dunya kanna karib ou adas. » Sois dans ce bas-monde comme un étranger ou comme un passant. Et Abdullah ibn Omar disait ensuite, « Lorsque tu attends le matin, n'attends pas la nuit. Et lorsque tu attends le soir, n'attends pas le matin. Et prends de ta santé pour tes jours de maladie et de ton temps libre pour tes jours où tu seras occupé. » C'est ainsi qu'ils vivaient, en occupant leur temps pour construire leur au-delà. Ils ont compris que ce bas monde, c'est un champ. Il nous fallait travailler, cultiver, et que la récolte sera yom al-qiyama indallahi azza wa jal. Puis l'auteur nous dit, وهؤلاء قد أمر الله سبحانه ورسوله أن لا يطيعهم فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. L'auteur رحمه الله تعالى nous dit c'est justement cette catégorie de gens qu'Allah ordonne à son messager, à qui Allah ordonne à son messager de ne pas obéir. En conséquence, l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam ne s'accomplit qu'en désobéissant à cela. Car en fait, ils ne font que convier autrui à leur ressembler, à se laisser entraîner par les passions et à demeurer insouciants au rappel d'Allah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ici, après nous avoir enseigné que la plupart des gens perdent leur temps et ont les cœurs corrompus, ont les cœurs distraits du rappel d'Allah, ont leurs affaires désordonnées, et ils ne font pas ce qui leur ramène du bien dans ce bas monde ni l'au-delà. Il nous dit ensuite, rahimahullah ta'ala, ces gens-là qui n'ont pas de baraka, qui perdent leur temps, qui ont les cœurs corrompus, qui ne sont donc pas pour toi source de bien, sache qu'Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'en éloigner. Les gens qui ont perdu leur baraka, les gens qui ont le cœur corrompu, les gens qui perdent leur temps, les gens qui sont distraits du rappel d'Allah, Allah a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les fréquenter. Par conséquent, toi tu n'auras pas été un suiveur, tu ne seras pas un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu n'auras pas obéi pleinement au prophète sallallahu alayhi wa sallam tant que toi aussi tu n'auras pas mis en pratique cet acte. C'est compris? Allah a dit au prophète sallam, fréquente pas ces gens-là. Si toi tu les fréquentes, est-ce que tu auras obéi au prophète sallam et à Allah? Oui ou non? Non. Vu qu'Allah a interdit au prophète sallam de les fréquenter, tu ne seras pas un bon serviteur d'Allah et un bon suiveur du prophète sallam tant que toi aussi tu ne t'en seras pas éloigné. C'est wadah, c'est clair? Faye. Il nous dit ensuite, car ces gens ne font qu'inviter les autres à ce qui est à leur image. Ce sont des gens qui perdent leur temps, qui vont t'appeler toi à occuper ton temps dans le bien. Ce sont des gens qui sont distraits, qui ont les cœurs sales. Est-ce qu'ils vont t'appeler toi à avoir un cœur propre et à te rappeler leur nom? Non. Car chaque personne offre aux gens de ce qu'elle possède. Sahih? Chaque personne offre aux gens de ce qu'elle possède. Ben, les gens du mal invitent les gens au mal. Et les gens du bien invitent les gens au bien. Sahih? C'est lui qui a un récipient rempli maza, rempli d'eau. S'il arrose les gens, il va les toucher avec quoi? Avec de l'eau. La personne qui a un récipient rempli d'impuretés, s'il arrose les gens, il va les toucher avec quoi? Avec des impuretés. Donc celui qui n'a pas les choses, il ne peut pas te l'offrir. Ben ces gens, ce sont des gens qui ont du mal. des gens qui n'ont pas de baraka, des gens qui perdent leur temps, des gens qui ont les cœurs sales, éloigne-t'en comme tu t'éloignes et tu te sauverais d'un lion que tu rencontrerais dans la rue. Naam, ou pire encore, car le lion, le pire qui puisse se faire, ôter la vie, si Allah a décrété des cieux. Alors que ces gens-là peuvent anéantir ton bas-monde et ton au-delà. Le lion ne peut pas anéantir ton au-delà. Mais ces gens-là peuvent t'affecter, et te détourner de la vérité au point où tu perds non seulement ta vie, car la perte du temps, c'est la perte de la vie en réalité, car tu n'es qu'un ensemble de jours, comme l'a dit Al-Hassan al-Basri. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui meurt. Ben si ces gens-là te font perdre ta vie, tu auras perdu ton bas-monde et ton au-delà. Alors que le lion peut te faire perdre la vie, mais pas ton au-delà. Donc ils sont pires. Ils sont pires que les bêtes féroces qui pourraient, ma'aza, t'ôter la vie. Et ne pensez pas qu'aux gens en face de vous, comme je l'ai cité auparavant. Mais également, entre dans cela, qu'est-ce qu'on a dit ? La télé, Internet, le téléphone, les SMS et ainsi de suite. Dans tout cela, il y a une da'wa. Dans tout cela, il y a la corruption des cœurs. Dans tout cela, il peut y avoir un âme, la corruption du cœur, la perte de temps, la distraction du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au jour d'aujourd'hui, tu peux trouver des gens derrière leur écran, sur leur clavier. Ils pensent n'être vus de personne. Alors qu'Allah Azza wa Jalla les surveille, wa huwa ash-shahid, wa huwa ar-raqib, parmi ses noms ash-shahid, parmi ses noms ar-raqib, celui qui est témoin de toutes choses, celui qui surveille tout le monde. Alors que les anges notent, et que ces feuillets lui seront rendus yawm al-qiyam, et lui pense qu'il n'est vu de personne. Et il parle, et il chatte, et il parle avec des femmes, et il parle avec des hommes, et il parle sur un tel, et il parle sur une telle. Et il triche, et il ment. Et ensuite, au matin, il ressort et croise des gens et pense que personne n'a su cela. Astaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Musiba, musiba, an naghfala an dhikrillah. Wa an illah. Wa an muraqabatillah. Un malheur, une calamité qui s'abat sur nous si on est distrait d'Allah. Du rappel d'Allah. Et du fait qu'Allah nous surveille à chaque instant et à chaque moment. De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَالْغَفْلَةُ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ مَتَ تَزَوَّجَتْ بِاتِّبَاعِ الْهَوَى تَوَلَّدَ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ شَرٍ وَكَثِيرًا مَا يَقْرَنُ أَوْ يُقْرِنُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ يُقْرَنُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَلَا يُفَارِقُهُ. Encore une autre règle qu'il nous faut retenir. Et un passage qu'il faut surligner. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, donc je reprends un peu plus haut, aussi, lorsque l'insouciance de la religion et de l'au-delà se joint à l'abandon aux passions, cette union engendre tous les maux. Et la plupart du temps, ces deux éléments sont liés l'un à l'autre et ne se dissocient pas. L'auteur nous dit, le fait d'être distrait d'Allah, d'oublier Allah, Le fait est d'être distrait de l'au-delà. Donc la distraction, le fait d'oublier Allah et notre retour vers Allah, yawm al-qiyam. Cette chose-là, si elle vient à s'associer, à se marier, à se lier avec le suivi des passions, de cette union va naître tout le mal. Et rares sont les fois où on trouve le premier sans le deuxième, ou le deuxième sans le premier. Je répète. L'insouciance, le fait d'être distrait d'Allah et de son rappel, ainsi que du retour vers Allah, ça c'est la première chose. Si elle vient à s'ajouter et à s'associer au suivi des passions, alors attends-toi de cette union tout le mal. La personne a oublié Allah et le fait qu'elle va revenir vers Allah pour être jugée. En plus de cela, elle suit ses passions. Alors attends-toi à voir tout le mal de cette personne. Attends-toi à tout le mal. Puis l'auteur nous dit, et rares sont les fois où on trouve juste une de ces deux choses. C'est-à-dire celui qui est distrait, insouciant d'Allah, alors sache qu'il va suivre ses passions. Et celui qui suit ses passions, sache qu'il est distrait d'Allah et de la mort et du retour vers Allah tabarak. Ça, c'est à retenir. Ceci est à retenir. Qu'est-ce qui va prendre la responsabilité de noter les meilleures paroles sur une feuille, afin qu'on les lise à la fin du livre, inshallah. Chaque fois que je vous dis retenez ce passage-là, surlignez ce passage-là, vous notez sur une feuille à part. À la fin, vous mettez cela au propre. Une personne tape ses paroles et inshallah, à la fin, maza, ça restera en tant que faïda du livre auprès de nous, inshallah, et on lira cela. Qui prend cette responsabilité? Qui lève sa main? Ant, Tayyib. Et si un tel oublie, qu'est-ce qui aura pris la relève? Ant. Et si les deux tombent malades? Ant, Tayyib. Ah ben, inshallah. Ça c'est une parole en or. Meilleure. On la répète. وَالْغَفْلَةُ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةِ مَتَى تَزَوَّجَتْ بِاتِّبَاعِ الْهَوَى تَوَلَّدَ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ شَرٍّ كُلُّ شَرٍّ. Aussi, vous avez Maza aussi lorsque l'insouciance de la religion. D'accord? Plus précisément, c'est le fait d'être distrait d'Allah et du retour vers Allah, c'est-à-dire l'au-delà. Lorsque ceci se joint à Maza au suivi des passions, découlera de cette union tout le mal. La personne qui atteint ce degré de faiblesse et d'anéantissement, il se peut qu'elle ait mémorisé le Coran entièrement. Il se peut qu'elle récite le Coran et qu'elle exhorte autrui, mais elle ne tire pas profit des signes d'Allah ni des versets d'Allah. Il se peut que tu lui récites les versets sur le Jannah. Tu lui décris le Mazal le Jannah. Tu lui récites la deuxième partie de Sourate Ar-Rahman. Au point de certains savants d'étudier Sourate Ar-Rahman, tu vois le Jannah devant toi. Subhanallah. Mais son cœur ne bouge pas. Il ne s'empresse pas d'aller vers Allah et Jannah. Il se peut que tu lui récites des versets sur An-Nar et l'Azab An-Nar. Mais lui ne se repent pas et ne délaisse pas les péchés. Pourquoi? Parce qu'il arrive à ce niveau-là. Il est distrait, il oublie Allah, il oublie son retour vers Allah et il suit ses passions. As-Allah Azza wa Jal. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين والغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفة والعلم به والعلم به فيكون من الضالين واتباع الهوى يصد عن قصد الحق وإرادة واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. Tu t'étonnes dans cette rissale, dans cette lettre, comment Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala passe d'un paragraphe à un autre, d'un sujet à un autre, sans que tu t'en rendes compte. Tellement, yani, il a écrit avec excellence. Et tellement il a mada relié un sujet à un autre. Donc tu arrives à la fin du livre, tu as traité de nombreux sujets, alors que tu n'as pas ressenti mada de lourdeur ni de difficulté. Rahimallah l'allama ibn Qayyim. À chaque fois qu'on lit un livre de quelqu'un, à chaque fois qu'on prend une fa'ida de quelqu'un, il nous faut ne pas oublier de faire du'a pour lui. Il nous faut ne pas oublier de faire du'a pour lui. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala est décédé. Hein? Mais voici l'héritage. Hein? Sadaqatun jariya ou 'ilmun tafa'a bih ou waladun salih ij'ala. Une lettre, subhanallah, qu'il a écrit à un frère. Ajib wallah. Une lettre, ça peut entrer dans les actions qui perdurent après ta mort. Une lettre, ne sois pas avare envers toi-même. Combien de personnes vous connaissez qui sont égarées, qui étaient avec vous à l'école? Qu'est-ce qui t'empêche de lui écrire une lettre? Combien de personnes qui ont voyagé et tu entends du mal de, ou bien toi tu voyages et tu entends du mal de, tu les as laissées? Hein? Tu lui écris une lettre. Tu Tu lui écris une lettre, je pense à toi, je fais du'a pour toi, je me souviens tel moment et tel moment lorsqu'on était là-bas, la muhadara, la daura, au cours, kada, kada, je lui rappelle les bons moments. Ensuite, tu lui rappelles quelques versets, quelques ahadith, tu fais du'a pour lui. Ma'assa. Sahjidden, sah. Une page, deux pages, une demi-page. Wahaka. Il se peut que cette lettre reste chez lui, qu'il la lise à ses enfants qui vont naître, que les enfants les lisent aux petits-enfants, et qu'au final, un des enfants, yani, devienne un talib ilm. Et puis, il dit, un jour dans un cours, voilà, l'ami de mon père un jour lui a écrit cela. Ne minimise pas le bien. Le prophète sallam nous dit la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau anta talqa akhaka biwajhin talq. Ne néglige rien du bien, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu, un sourire, une bonne parole. Ne néglige rien, subhanallah. Ne néglige rien. Certains conseils qui ont été donnés il y a de cela des siècles, on se les relate au jour d'aujourd'hui, à une époque où la plupart des gens sont distraits de l'islam, alors que dire de l'étude de l'islam, alors que dire des assises dans les mosquées, hein? Est-ce qu'Ibn Qayyim aurait pu imaginer une demi-seconde que de Ala ad-Din la lettre va passer à Ibrahim, ou Muhammad, ou Hassan, ou Salim, ou Fulan, ou Fulan? C'est des choses inimaginables. Mais quand Allah Azza wa Jal veut un bien pour son serviteur, il facilite les causes. Et certaines personnes ont été guidées par leurs parents après la mort de leurs parents. Hein? Certaines personnes ont été guidées par leurs parents après la mort de leurs parents. Leurs parents, de leur vivant, leur faisaient une nasiha et leur ont écrit des choses. Et ces gens-là n'ont pas mis en pratique. Mais après la mort de leurs parents, un jour, ils ont lu, ou ils se sont rappelés et ils ont mis en pratique. Et un de nos frères, son père est décédé, rahimahullah, et les gens du quartier, les personnes âgées du quartier lui ont parlé de son père. On dit, ton père était toujours au mosquée, ton père toujours kaza, toujours kaza, toujours kaza. Aujourd'hui, ce frère, il est à la sunna, il est à la sunna, il est à la khayr. Hein? Il est à la khayr. Waha kaza. Il se peut qu'une femme, sa mère lui dise, porte le hijab, sois pieuse, préserve-toi, kaza, kaza. Et qu'après la mort de cette femme, Yann, elle se rappelle les conseils de sa noble mère, elle se rappelle le conseil, waha kaza, et puis elle emprunte également ce chemin-là après la mort. Mais il faut laisser des traces. Il faut laisser des traces. Wallah musta'an. L'auteur nous dit, celui qui médite l'état de corruption du monde en général et certains de ses aspects en particulier se rendra compte que cet état résulte de ces deux principes qui sont l'insouciance envers la religion et l'abandon au passé. Dans le livre, il traduit par l'insouciance envers la religion. La parole d'Ibn Qayyim, elle est bien plus précise et bien plus forte sur le cœur. C'est elle rafla anillah, le fait d'être distrait d'Allah, t'oublie Allah, ou andar al-akhirah, et t'oublie la vie future, l'au-delà, la mort et le retour vers Allah. Donc l'auteur nous dit, celui qui médite sur la corruption du monde de manière générale ou de manière particulière se rendra compte que la base de cette corruption revient à l'un de ces deux principes, ou les deux. Ou plutôt à ces deux principes. Quel est le premier principe? Le fait d'être distrait, d'oublier Allah et de retourner vers Allah. Le deuxième principe, c'est quoi? Le suivi des passions. Puis l'auteur nous dit, d'un côté, le fait d'être insouciant constituer un obstacle entre là et la possibilité de percevoir et de connaître la vérité. Donc la première maladie, l'insouciance, le fait d'oublier Allah, la mort et le retour vers Allah ainsi que son rappel, ça a pour conséquence de t'empêcher de connaître l'haq, la vérité. Tu n'arrives pas à déterminer, à percevoir la vérité. Est-ce que c'est compris? Ça, ça a retenu. L'insouciance, c'est un rempart contre quoi? Devant quoi? Un obstacle entre toi et quoi? Al-ilm. Le fait de percevoir la vérité comme elle l'est en réalité. C'est retenu? Celui qui est dans cet état fera partie de Al-Bali, comme à la fin de Suratou Al-Fatiha. Ce sont ceux qui se sont égarés car ils étaient ignorants. C'est retenu ? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, d'un autre côté, l'abandon de soi aux passions obstruit le chemin menant vers la vérité via tirer de ses conformes. Donc, deuxièmement, le suivi des passions, cette deuxième maladie, est un obstacle entre toi et quoi ? Al-amal bil-ilm. Entre toi et la mise en pratique de la vérité. Donc il connaît la vérité, il sait qu'il est dans le faux, il sait où est la vérité, mais il n'arrive pas à faire se soumettre son cœur à cette vérité pour emprunter le chemin de la vérité. Pourquoi ? Il y a un obstacle. Quel est cet obstacle ? Tiba' al-hawa, le suivi des passions. Le suivi des passions. S'il se retrouve dans cet état, il fera alors partie du nombre de al-maghdoub alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Pourquoi ? Ils savent, mais ils n'ont pas mis en pratique. Est-ce que c'est wa'ala, c'est compris ? Donc deux catégories de personnes. Les premiers n'ont pas su la vérité car ils sont insouciants. Ils se sont donc égarés. Les deuxièmes ont su la vérité mais ne l'ont pas mise en pratique. Pourquoi ? Car ils ont préféré faire devancer leur passion. C'est clair ? C'est à retenir, c'est très très important. Donc façade ou l'ilm vient avec al-rafla. Et ça a pour conséquence al-balal. Maza façade ou l'amal vient avec ittiba al-hawa. Et ça a pour conséquence de faire partie du nombre al-marzoub alayhim. La personne peut connaître la vérité. Elle peut mémoriser même cette vérité. Mais lorsque tu vois dans sa mise en pratique, tu vois qu'il suit ses passions et elle n'est pas en pratique. C'est pour cela que la science ne réside pas que dans le fait de beaucoup mémoriser, beaucoup lire et se déplacer d'une assise à une autre, aller d'une conférence à une autre. Non. Ra'sul 'ilm khashyatu wa ta'atu wa imtithalu awamir. La tête de la science, c'est la crainte d'Allah, la soumission à ses ordres. Celui qui connaît ses obligations et les met en pratique est meilleur que celui qui connaît bien plus, mais désobéit Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, « Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama » Les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants. Pourquoi ? Car leur connaissance d'Allah est plus complète. Alors ils ont mis en pratique les ordres d'Allah Azzawajal et sont éloignés de ses interdits. Dans le cas, la personne a de la science, même beaucoup de science, mais ne la met pas en pratique. Elle aura une ressemblance avec Eliyahu. Elle aura une partie du verset à la fin de Surat al-A'raf, hein, à l'image du chien qui qui lape la terre, ou bien Maza qui a la langue sortie. Vous voyez que j'ai oublié le verset. Intatruku yalhath. Naam. La traduction plutôt. À la kulli hal, vous revenez au passage de Surat al-A'raf. Ou bien à l'image de l'âne qui porte des livres sur son dos. Est-ce qu'il va tirer profit de cela, l'âne ? Non. Que tu en rajoutes ou pas, ça ne change rien. Et elle ne peut en tirer profit. Ben, c'est ainsi que sont ceux qui ont de la science, mais ne la mettent pas en pratique. Et c'est avec ces deux choses-là qu'ont été envoyés les prophètes pour nous apporter le bonheur et afin qu'on puisse se purifier de ces deux grands défauts. Donc, le premier défaut, c'est l'insouciance, qui emmène la perte de la science et l'égarement. Le deuxième défaut, c'est le suivi des passions, qui emmène l'empêchement de la mise en pratique, et donc la colère. On encourt avec cela la colère. Ben, les prophètes sont venus avec les deux remèdes. Le premier remède, al-ilm an-nafi', la science utile. Le deuxième remède, al-amal salih, la mise en pratique des actions pures. Allah dit dans le Coran, « Huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda » C'est celui qui a envoyé son messager bilhuda, avec la voix, la guidée. Et dans ta fille, tu trouves que la guidée, c'est quoi ? Naam ? Al-ilm nafi'. La guidée, c'est la science utile. Wadin al-haq. Dans ta fille, pour dire al-haq, c'est quoi ? La religion véritable, c'est la mise en pratique. Donc les prophètes sont venus avec ces deux choses-là. La science utile qui vient et régler quel problème ? Elle rafle à l'insouciance. Les actions pieuses qui viennent régler quel problème ? le suivi des passages. C'est à retenir. Voilà. Ce livre, c'est un trésor. Cette rissa-là, c'est un trésor. Si on la comprend et on se corrige avec. Et c'est un trésor qui repose sur les enseignements du Coran et de la Sunna. Donc, as-sa'ada, le bonheur, s'obtient avec ces deux qualités. Et s'obtient en se purifiant de ces deux défauts. Vous avez retenu les deux qualités et vous avez retenu les deux défauts. Faqanallahu ilayhi wa iyyakum. Après nous avoir cité ces deux mauvaises catégories, l'auteur va nous citer le groupe sauvé, le groupe des bienheureux, ceux à qui Allah Azza wa Jalla a voulu le bien. Il nous dit wa amma al-mun'amu 'alayhim fa hum alladhina manna Allah 'alayhim bi ma'rifati al-haqq 'ilman wa bil inqiyad ilayhi wa itharihi 'ala ma siwahu 'amala wa huwa wa ha'ula hum alladhina 'ala sabil an-najah wa man siwahu على سبيل الهلاك ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في لوتر رحمه الله تعالى نجي ويا بس تلاس عن إريتاج تلي بروفيتابل أتفكر زي سر. Combien de fois on a dit Rahimahullah depuis le début? Hein? Rahimahullah ibn al-Khayyim. Combien de fois? Personne n'arrive à dire le nom, ça? Faudrait réécouter l'audio. Donc ça, c'est une des fa'idas d'être mubarak. Hein? An-nas yad'ouna lak, bi da'awat salihah, inshallah. Les gens vont faire du'a pour toi par la suite. Et même pour tes parents, alors qu'on ne les connaît même pas, peut-être. Peut-être que c'est da'awat. Peut-être qu'elle est dans son village. Perdu. Hein? Mais subhanallah, tu fais du khayr, les gens vont dire rahimallah walida, rahimallah walida, rahimallah walid, kaza. Alors qu'on ne sait même pas c'est qui. Mais parce que tu as fait du bien aux gens, t'es mubarak, on va faire du'a pour tes parents à cause de ta venue au monde. Donc celui qui veut birr al-waliday, yuhsin al-khayr. Tu fais du bien aux gens, il y aura un birr pour tes parents. Rahimallah walida. Allahumma firla wa rahamna. Allahumma firla wa rahamna. Allahumma firla wa rahamna. وأسعدها في قبرها وارفع درجاتها في الجنة وتب عليها رب العالمين واحشرها مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين واحشرنا معهم أيضا واغفر لآباء المؤمنين واغفر للأقمين لموتى المسلمين. Donc l'auteur nous dit en ce qui concerne ceux qui ont ماذا ceux qui ont été comblés de ses bienfaits. Donc ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux à qui Allah a accordé la connaissance de la vérité à travers la science. Donc tandis que ceux qui sont couverts de bienfaits, Allah les a comblés en leur permettant de connaître la vérité, de s'y soumettre et de donner la précédence à l'application de ces préceptes sur toute autre chose. Donc ils font devancer les ordres d'Allah sur ce qu'ils auraient comme passion ou sur toute autre chose. Alors que les autres sont sur le chemin de la perdition. Donc celui à qui Allah veut du bien, il lui permet de connaître la vérité et de la faire devancer en la mettant en pratique sur toute autre chose. Ces derniers suivent en fait la voie du salut. Voici le chemin du salut. Voici le chemin du bonheur. Voici le chemin par lequel on obtiendra la félicité. Ilm, nafi', amal, salih. C'est simple à dire, mais pour la mise en pratique, faut tawfiq min Allah. Nas'Allah azza wa jalla wa tawfiqah. C'est pourquoi Allah nous commande de répéter plusieurs fois par jour. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru la colère, ni des égards. Ici, ils ont traduit par ta colère. C'est plus général que ta colère. C'est pas que la colère d'Allah. C'est marboub alayhi. Il y a une faïda dans le fait de ne pas avoir dit ta colère. Parce qu'on comprend de cela qu'ils ont la colère d'Allah. Si Allah se met en colère contre eux, ils auront la colère de qui aussi? Al-mala'ika. Wal-mu'minin. Et des gens. Tout le monde se met en colère. Et finna, en enfer, ces gens-là, même Ahlouna seront en colère contre eux. Sahih ou la la? Et ils vont faire dua contre eux, alors qu'ils seront finna. Sahih ou la la? Ils vont faire dua contre eux. Ya Allah, c'est lui qui m'a amené ici. Ajoute-lui à son châtiment. Que se passera-t-il? Les kullin dhi'af. On va décupler le châtiment pour tout le monde. Ils vont s'accuser les uns les autres. C'est à cause de lui, c'est à cause de... Au final, ils vont se tourner vers qui? Al-Shaytan. Et Shaytan, que va-t-il faire? Il va se désavouer de tous et il va faire une khutbah finna. Lisez surat Ibrahim et vous allez trouver cette khutbah. Qu'est-ce qu'il va dire? وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب pour la traduction de revenir sur Ibrahim. الشيطان va se désavouer d'eux en leur disant je n'avais aucun pouvoir sur vous. Si ce n'est que je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Vous ne pouvez rien faire pour moi, je ne peux rien faire pour vous. Je me désavoue complètement de vous. Hein? Al-Shaytan al-La'im, regardez comment il va se désavouer. Alors, délaissez le chemin du Shaytan et empruntez le chemin d'Ar-Rahman pour être ressuscité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc voici le chemin du salut. La science utile et la mise en pratique des actions pieuses. Ensuite, l'auteur nous dit فَإِنَّ الْعَبْدَ مُطَّرٌ كُلَّ الْإِضْطِرَارِ إِلَّا يَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَنْفَعُهُ. Je n'avais pas fini de lire. Guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru la colère, ni des égards. فَإِنَّ الْعَبْدَ مُطَّرٌ كُلَّ الْإِضْطِرَارِ إِلَّا يَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَنْفَعُهُ في معاش ومعادي وأن يكون مؤثرا مريدا لما أنفعه مجتنبا لما يضره فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم فإن فاتته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين وإن فاتته قصده واتباع سلك سبيل المغضوب عليه وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه رحم الله ابن القيم رحم الله ابن القيم رفع الله درجاته في الجنة un frère a dit une fois si Allah Azza wa Jal m'honore en me permettant d'entrer fil Janna, j'irai voir un taïf parmi les ulama. Et je dis si Allah Azza wa Jal, par miséricorde et pitié envers moi, me permet d'entrer fil Janna, après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Sahaba, j'irai voir Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Allahumma adkhilna al-Janna, ma'abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina. Et tu te demandes l'état du cœur qu'avaient ces gens-là au moment où ils écrivaient des paroles semblables. Toi, tu prends ton stylo, tu sors ta feuille et t'essayes d'écrire ça. Allahu alam, si tu réussis à t'approcher de ce niveau. Et la grande différence n'est pas que dans l'ilm, elle est dans sidr ma'allah, la véracité que tu as avec Allah dans ton dîn. Dans quwwatul ikhlas wa tawajjuh ila Allah azza wa jalla wa l'iftiqar ilayhi. Dans la force de ta sincérité et dans ton abandon auprès d'Allah Azza wa Jalla, le fait que tu abandonnes toute ton affaire à Allah Tabarak wa Ta'ala et que tu aies pleinement conscience que toi tu n'es rien sans Allah et que tu ne peux réussir sans Allah Tabarak wa Ta'ala et tu ne comptes pas sur ta force ni ton intelligence, tu comptes que sur Allah Tabarak wa Ta'ala et son être. Wallahu musta'an. C'est ces sens-là qui nous manquent. Ajoute à cela les nombreux péchés qui obstruent le chemin ou qui freinent notre chemin et notre élan vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. L'auteur nous dit l'âme est donc dans l'absolue nécessité de connaître ce qui lui sera utile dans sa vie présente et future. Il doit être enclin et avide d'œuvrer en vue de ses intérêts. tout comme il doit s'écarter de ce qui peut lui nuire. La connaissance puis la mise en pratique de ces deux éléments lui garantissent d'être mené au droit chemin. Donc la personne est dans le plus grand besoin, dans la plus grande nécessité, dans un besoin absolu, vital, de savoir comment obtenir le salut dans ce bas monde et l'au-delà. Comment être guidé sur la voie droite? Pour ce faire, il lui faut deux choses. Connaître le bien et le mettre en pratique. Connaître le mal et s'en éloigner. Ainsi, il aura réussi. Donc, en premier lieu, tu dois savoir où est le bien. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Ça vient avec l'ilm al-nafi'. Ensuite, tu dois œuvrer. Et ça, c'est l'amal as-salih. Sans oublier de t'éloigner du mal. Car si tu le fais le bien sans t'éloigner du mal, tu auras toujours des manquements. Et il y aura un combat entre le bien et le mal qui se trouve sur toi. Et au final, l'emportera le plus fort, comme nous l'avons cité dans Asbab ibn Sharah al-Sadr. Encore une fois, de qui? D'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Puis l'auteur nous dit, avec l'union de ces deux choses, avec l'union de ces deux choses, donc connaître ce qui t'est utile et le mettre en pratique, et tu seras guidé, ou cette personne sera guidée sur le chemin. Par contre, s'il lui manque la bonne intention, qui est le fruit de la bonne connaissance, alors, ou bien son suivi, donc s'il lui manque la science, la bonne intention, qui est le fruit de la science utile, ou bien la mise en pratique, qui réside dans le délaissement du suivi des passions, alors il aura emprunté soit le chemin de ceux qui ont couru la colère, soit le chemin de ceux qui sont égales. S'il lui manque la bonne intention due au manque de science, il aura emprunté le chemin de qui? Des égarés. Et s'il lui manque la mise en pratique après avoir la connaissance, il aura emprunté le chemin de Al-Mardoub alayhim, ceux qui ont couru la colère. Et si après en avoir pris connaissance, il manquerait cet objectif et ne s'y conformerait pas, il emprunterait alors le chemin de ceux qui encourent la colère divine. Donc, avec le manque de science, il emprunte le chemin des égarés. Avec le manque de mise en pratique, il emprunte le chemin de ceux qui ont couru la colère. J'espère qu'ainsi, tu connaîtras la valeur de cette sublime invocation. De quelle invocation il s'agit? Fatiha. Hein? Al-Fatiha. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina amta alim, ghayri maghdubi alim, wa al-dallin. C'est ainsi que certains savants, comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, disaient, il convient d'enseigner à la masse des musulmans qu'Al-Fatiha, c'est quoi? C'est une dua. Quand tu lis le Fatiha, rappelle-toi que c'est une dua. Hein? Et c'est la meilleure dua du Coran. Et c'est la plus grande, la meilleure sourate du Coran. Et c'est la meilleure sourate qui a été révélée sur un prophète. Personne n'a reçu son équivalent. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous a rendu obligatoire sa récitation plusieurs fois par jour. Au minimum, combien de fois par jour on récite le Fatiha? 17 fois. Si tu ajoutes al-Rawatib, il y en a combien par jour? 12. Est-ce une raka'a? Même ce rogatoire peut être validé ou valable sans la lecture de Fatiha? Non. Donc dans chaque fard ou dans chaque nas, il récite quoi? Al-Fatiha. Et à chaque fois il dit ihdina sirata al-mustaqim. Sirata al-ladhina an'amta 'alayhim, ghayri al-maghdubi 'alayhim wala ad-dallin. Tu fais du'a, tu demandes à Allah la guide. Fa'a'zamu al-matlab, donc la plus grande chose qu'on recherche et qu'on demande, c'est quoi? C'est la guider à l'islam, comme a été guidé notre frère Philippe, il y a de cela une heure. La guider à la sunnah. Puis la conscience. puis la constance et le détail de cette guidée, comme on le verra inshallah ta'ala dans notre prochain cours. Je ne me lasse pas de la lecture de son explication et de cette assise, mais par peur que ce soit trop lourd pour une partie d'entre vous, je vais m'arrêter là inshallah ta'ala, et on continuera inshallah ta'ala mardi ou jeudi. D'accord, mardi ou donc il y aura cours jeudi, vendredi, samedi et dimanche inshallah ta'ala. Wa sallallahu ma barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا وصلواتنا وقيامنا وأن يوفقنا إلى كل خير ويهدينا سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أسأل تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين الغفار الغفور الرحيم أن يتوب علينا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وانفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا وزدنا علما. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.